With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et comme chaque semaine, je suis très heureux de vous retrouver pour une émission de folie où on va parler de tout ce qui se passe et de tout ce qu'il faut retenir dans l'actu tech. On lit tout, on écoute tout, on comprend tout, bon, on essaye de comprendre et puis on vous le régurgite comme un oiseau à ses oisillons. On va s'arrêter là. Le rire malicieux que vous entendez derrière, c'est celui de Gaël Girardeau, qui est avec nous à nouveau. Comment ça va, Gaël ?
Ben écoute, très bien, Patrick, tu m'as l'air très en forme.
Ouais, mais comme toujours, je suis à moitié mort avant que je n'allume le micro, mais quand je suis en plein chaud, tout à coup, hop, ça y est, c'est parti, et c'est la fête, évidemment. Je suis sûr que tu as le même sentiment, Guillaume Vendée, quand tu es derrière ton micro.
Évidemment, et prêt à régurgiter avec vous deux les infos, mais comme le ferait une maman oiseau à ses petits oisillons dans le nid, donc on va régurgiter avec bienveillance.
C'est ça, exactement. C'est pas le genre de régurgitation qu'on peut avoir quand on lit trop Twitter, tu vois, non, pas du tout, c'est fait avec bienveillance. Et justement, on va vous parler de Twitter, bien sûr, avec les fleets qui ont été activés. C'est quoi les fleets ? Eh ben, c'est les stories, mais pour Twitter. On va vous parler aussi beaucoup d'Apple. Vous savez, parfois, parler d'Apple, ça devient fatigant. Et il y a des gens qui n'apprécient pas parce qu'ils se disent « Oh, on parle trop de la poudre aux yeux que nous vend Apple ». Eh bien, pour une fois, Apple fait très fort, mais objectivement, avec leur nouveau processeur dont on a les résultats. Alors, on en a déjà parlé les semaines précédentes, donc on ne va pas non plus refaire tout le topo, mais il y a quand même des choses à dire parce que ça peut changer l'équilibre de l'ensemble de l'industrie des processeurs et donc de l'ensemble de l'industrie de l'informatique tout court. C'est vraiment quelque chose d'important qui se passe à ce niveau-là. Et puis, il y a des changements aussi peut-être moins reluisant pour Apple, où on va regarder ça du côté de l'App Store, du côté d'autres choses aussi. Donc oui, on va beaucoup parler d'Apple, mais j'espère que vous aurez la force d'écouter, même si vous n'êtes pas fan, parce que là, pour le coup, c'est vraiment important et il faut le savoir. Donc, avant ça, on va quand même remercier les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission. François Duchemin, Romain Leclerc, Nourdine Chafoui, Mathieu Rivo-Allen, Marco Chen, Poulayo, Ashley Rose, Alex, Esder, David Baudouin et les producteurs qu'on remercie tous les mois, Chulrac, Lancelot Davizard, Marie Elédéry et Stéphane Lioret et tous les autres qui choisissent également de soutenir l'émission. Vous savez qu'ils sont mes auditeurs de cœur. Bon, tout le monde est un petit peu dans mon cœur quand même. Hein. Si vous écoutez cette émission, sachez que je vous aime d'amour. Mais eux... un petit peu plus. Vous savez que c'est comme quand un parent dit de ses enfants « Oh, moi, mes enfants, je les aime tous autant les uns que les autres. » Vous savez que c'est ce qu'il dit, mais dans le fond, vous savez que c'est pas ce qu'il pense. Moi, c'est comme ça avec les auditeurs qui soutiennent l'émission. Moi, j'ai qu'un enfant, donc ça va, je suis tranquille.
Tu te mouilles pas.
Oui, non, c'est ça, exactement. Donc, merci à vous tous de soutenir. Si vous souhaitez devenir auditeur de cœur, vous aussi, c'est sur patreon.com/rdvtech, évidemment. Je salue également la chatroom qui est là et qui pense que je suis en train de jouer à World of Warcraft. Pas du tout, figurez-vous, je crois que c'est la première fois depuis le début de ma vie de World of Warcrafter que je n'ai pas le temps de jouer au moment où l'extension est lancée. Et croyez bien que ça m'attriste, je suis là avec vous parce que le devoir m'appelle et donc je ne suis pas sur World of Warcraft. Ça devrait montrer à quel point je suis quelqu'un de sérieux et de dédié à son art. J'espère que c'est la preuve ultime de cette affirmation. Bon, alors, le premier sujet, je pense que, plutôt que de faire Apple, franchement, je pense que le processeur M1 est plus important que les Flits et que Twitter, mais c'est quand même très important de parler de Twitter aussi. Et puis, on a déjà parlé du M1 la semaine dernière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer par Twitter et les changements qu'ils ont implémentés. Et je dis depuis tout à l'heure, les Flits. D'abord, je vais expliquer ce que c'est que les Flits, mais ce n'est pas la seule chose qui est en train d'être implémentée par Twitter. Il y a aussi les Rooms qui sont quelque chose qui pourrait être intéressant, mais qui n'est pas encore implémenté pour le grand public. Alors, les Flits, c'est quoi ? Si vous savez ce que sont les Stories, vous savez ce que sont les Flits. Les Stories sont sur Snapchat, c'est là qu'elles ont démarré, et puis elles ont envahi un petit peu tous les réseaux sociaux, y compris des choses comme YouTube ou même, dans une certaine mesure, Netflix. Ils ont une forme de Stories, en quelque sorte. Mais le format est extrêmement populaire et évidemment c'est sur Instagram qu'il a le plus fait de bruit et qu'il est le plus utilisé. Et Twitter en a désormais leur équivalent. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des images qui prennent l'écran entier de votre téléphone. D'ailleurs, ils ne sont pas disponibles sur le web. Peut-être que ça arrivera, mais pour le moment, c'est uniquement sur téléphone mobile. Donc, ils prennent l'écran entier de votre téléphone. C'est des images qui vont rester 24 heures seulement disponibles. Alors, bien sûr, vous pouvez faire une capture d'écran. Ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent de l'Internet si quelqu'un les a capturées. Mais elles sont disponibles normalement sur Twitter que pendant 24 heures. Et vous pouvez, bien sûr, y lier un tweet. Vous pouvez prendre une photo de vous. Vous pouvez ajouter du texte. Et vous publiez ça, c'est lisible pendant 24 heures et puis ça disparaît. L'une des grandes qualités, l'un des grands attraits de ce format, c'est bien sûr l'aspect un petit peu éphémère. Et Twitter voulait sauter sur le train de la hype des stories, un petit peu en retard quand même, on va dire. Ça faisait longtemps qu'elles étaient populaires. Et avec des fonctionnalités limitées, il n'y a pas énormément de choses. L'un des trucs qui fait le succès des stories sur Instagram en particulier, c'est qu'on a plein de filtres, d'effets visuels, plein de petites choses qu'on peut ajouter. Là, c'est un petit peu bare bones sur Twitter. On a uniquement une photo ou un tweet qu'on veut lier et puis du texte qu'on peut formater un petit peu différemment, mais c'est tout. Donc, c'est disponible depuis quelques jours. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pris avec un petit peu pas d'ironie, mais de... Comment dire ils ont été un petit peu négatifs.
De sarcasme.
De cynisme, je voulais même dire. Genre, on n'en avait pas besoin, qu'est-ce qu'ils nous font ? Permettez-nous d'éditer les tweets plutôt. Je suis sûr que l'un d'entre vous allait faire cette blague. Donc, je vous coupe l'herbe sous le pied.
Tu nous voles notre blague.
Exactement, je suis sans pitié. D'ailleurs, merci aux viewers de Corben qui sont arrivés là, qui sont venus sur Twitch. Je vous fais un gros bonjour à tous et à toutes. On continue l'émission. On est en train d'enregistrer un podcast. Donc, quand les gens écouteront ce podcast dans les transports demain ou après-demain, c'est pas hyper podcastophonique de saluer les gens qui arrivent sur Twitch, mais je le fais quand même. Donc, les Flits, c'est bien ou c'est pas bien ? Peut-être que je vais demander à Guillaume en premier, toi qui es un expert des réseaux sociaux, bon, tant que nous tous, mais voilà, c'est comme ça que je le présente. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose ?
Alors, je ne sais pas si on va pouvoir dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. En tout cas, je vais te faire part de mon sentiment à ce stade, Patrick. Moi, je me gratte encore la tête de pourquoi c'est là. Je fais partie de ces gens-là. La raison pour laquelle je me gratte la tête là-dessus, j'ai essayé quand même de me demander pourquoi est-ce que ça m'interpellait autant, c'est tout simplement que quand ça vient, les stories sur des applications habituelles qu'on connaît, ça a été Instagram, ça peut être Facebook, aujourd'hui ça peut être LinkedIn, on a une plus-value sur un côté éphémère d'une publication, donc qui n'est pas dans la même temporalité que le contenu qu'on échange sur le réseau social. Là, le problème, c'est que ça vient pour moi un petit peu en redondance avec l'essence même de Twitter. Twitter, on envoie des messages relativement courts qui, par essence et par fonctionnement de Twitter, sont relativement peu durables, même si certains sont repris dans des articles d'info. On a cette espèce de dualité. Et moi, j'avoue que je suis ni très intéressé par le fait d'aller consulter des flits, j'arrive pas à me faire au nom, à des flits en haut de l'application mobile, et je suis pas hyper intéressé non plus pour en faire à titre perso. J'ai commencé quand même à me challenger un petit peu sur mon opinion ce matin en suivant un monsieur qui s'appelle Patrice Hilaire, donc Hilaire Patrice sur Twitter, qui fait une revue tous les matins. Alors, c'est pas Jérôme Kainborg, mais il fait une petite revue au travers de quelques tweets entre 7h et 8h. Et j'y vois une plus-value dans le sens où ça épingle en fait ses tweets. Il les met dans des flits et ça permet de les avoir dépinglés pendant une journée. Mmh. Et je reconnais que ça, c'est un petit usage que je n'avais pas identifié, qui est intéressant. Maintenant, c'est très, très, très à la marche pour moi en termes de fonctionnement. Et j'avoue que je me demande si vraiment, comme on l'a vu passer dans certains mèmes, toutes les applications ont besoin de proposer des stories. Franchement, je ne suis pas certain que ce soit nécessaire.
Gaël, est-ce que toi, tu vois l'intérêt des stories un petit peu partout ou tu n'es pas convaincu non plus ?
Non, j'avoue que je ne suis pas convaincue non plus. Je vous rejoins un petit peu tous les deux. Je pense que la question qui se pose, c'est la valeur ajoutée de ça. Et effectivement, comme tu le disais, la valeur ajoutée sur Instagram, notamment, c'est que bah, tu es sur du visuel et tu peux jouer sur le visuel. Là, tu n'as pas ces fonctionnalités-là. Et effectivement, Twitter, bah, tu as envie d'aller vite. C'est du consommable déjà très, très rapide puisque le nombre de caractères est limité. C'est justement pour pouvoir aller très vite. Si au milieu de tout ça, tu rajoutes des flits, voilà, je ne suis pas non plus convaincue. J'ai surtout l'impression que ça ressemble. Mon idée, c'est qu'ils le mettent là plutôt comme un futur format publicitaire pour les annonceurs.
Ah oui, déjà, tu crois carrément ?
Je pense. Mmh. À voir dans l'usage. Mais sinon, effectivement, je vois pas trop l'usage non plus de mettre du flit dans du tweet ou du tweet dans du... Je ne sais pas.
C'est marrant parce que moi, je suis arrivé dans le format Stories assez tard, peut-être un peu plus tard que les plus jeunes d'entre nous. Mais j'avoue que j'y trouve une versatilité qui est particulièrement séduisante. Et je crois que c'est un petit peu facile de se dire « Ah, mais est-ce que tout le monde a besoin de Stories ? Est-ce que c'est adapté à tel ou tel format ?» Oui, c'est vrai que la question se pose, évidemment. Mais je crois aussi que la raison pour laquelle ils sont partout, c'est parce que c'est populaire, mais c'est populaire parce que c'est hyper versatile. Moi, je vois ça presque, j'exagère un tout petit peu, mais je vois ça presque comme un format de quelque chose qui fonctionne dans d'autres domaines. Par exemple, pour entrer du texte ou pour manipuler une interface graphique, eh ben, la souris et le clavier, c'est quand même hyper bien. Et on ne va pas reprocher à un autre type d'ordinateur d'utiliser un clavier et une souris pour faire ce type d'interaction. De la même manière, les fonctionnalités de nos téléphones mobiles se rejoignent parce que bah, on découvre les meilleurs usages. Et d'une certaine manière, donc, les stories, pour moi, c'est exactement ça. C'est un format qui est plaisant, versatile, hyper versatile, en particulier avec les implémentations d'Instagram. On peut faire énormément de choses avec les stories et il n'y a pas de raison de se dire bah faut pas les mettre ailleurs parce qu'elles sont déjà ailleurs. Si c'est un truc qui est versatile, qui fonctionne, qui est efficace, il n'y a pas de raison de se dire non, on va pas les mettre là. Tu découvres d'ailleurs toi-même, Guillaume, depuis quelques jours, certains usages auxquels tu n'avais pas pensé. Quand je dis versatile, ça veut dire vraiment qu'on peut les utiliser de plein de manières différentes pour plein de choses différentes. Et je pense que l'aspect éphémère de Twitter, c'était ce qui était censé arriver au départ. Et on se rend bien compte que Twitter, c'est pas du tout éphémère. On a des gens qui vont remonter dans vos tweets pendant des années derrière pour aller trouver ce que vous disiez à tel ou tel moment. Parfois, le sortir du contexte, dans tous les cas, ou ne pas le sortir du contexte, et le présenter aujourd'hui. Et c'est pas du tout éphémère dans la pratique. Les flits, bon, bien sûr, comme je le disais, on peut faire une capture d'écran, mais tout le monde va pas faire des captures d'écran de tout ce que dit tout le monde à tout moment. Donc, d'une certaine manière, je suis un petit peu en train de me faire l'avocat du diable contre vos avis un peu récalcitrants au flit, mais je crois que c'est presque un retour à ce qu'était censé être Twitter à la base, c'est-à-dire ce que tu disais, Guillaume, un moyen d'avoir un truc pour envoyer des pensées qui n'ont pas forcément beaucoup d'importance et dont on n'a pas forcément envie qu'elles soient là, pour l'éternité ou en tout cas qu'on ne va pas les effacer une à une, ou etc. C'est juste on flit et puis c'est terminé. Enfin, c'est le principe des stories, quoi. Mais je crois que c'est assez adapté à Twitter. Est-ce que je vous convainc un petit peu ou pas du tout ?
Un petit peu, c'est aussi un marqueur culturel, Patrick. Enfin, je ne sais pas si vous partagez ce sentiment, mais j'ai l'impression aussi que les stories aujourd'hui, c'est un marqueur culturel qui permet d'identifier une app comme un réseau social peut-être mature ou quelque chose qui correspond au repère qu'on en a maintenant. Donc, c'est aussi probablement une tentative de Twitter de s'inscrire là-dedans. Ce que j'aime beaucoup, tu as raison, c'est les usages qui vont être détournés, comme je les identifiais, d'épingler des tweets pour certaines personnes qui font certains formats. Je ne doute pas que la communauté Twitter va s'emparer du format pour certains usages. Est-ce que ça sera suffisant ? Je ne demande qu'à voir. Moi, encore une fois, mon gros postulat de départ qui me pose problème, c'est que c'est très redondant avec la nature même d'un tweet en termes de consommation. Mmh. Je me rappelle, je me plongeais dans les initiatives d'Airbnb il y a de ça 2 ans maintenant, je crois, qui avait voulu proposer aussi des stories. Sauf erreur, ce n'est toujours pas implémenté pour le grand public dans l'application Airbnb, mais c'était malin parce que tu lances Airbnb quand tu veux planifier un voyage, mais finalement, tu ne vas pas relancer Airbnb régulièrement tous les jours une fois que tu es en dehors de ton voyage. Les stories auraient pu apporter une animation éditoriale autour du voyage qui aurait pu être intéressante et très complémentaire. Je ne vois pas cette complémentarité entre les flits et les tweets, mais encore une fois, pourquoi pas, hein, je demande qu'à être convaincu. D'accord. Par contre, pourquoi des flits, quoi ? Pourquoi pas des stories ?
Ah, parce qu'ils veulent pas, parce que flits, c'est fleeting, c'est comme des tweets, fleeting tweets, tu vois, fleeting, c'est le truc éphémère. Donc, bon. Après, oui, je pense que le nom n'est pas forcément idéal. Une autre question qu'on peut se poser, et puis on va avancer, c'est est-ce que ça va changer la nature de Twitter ? Parce que j'ai lu des textes d'analyse et d'opinion hyper intéressants sur le fait que, en fait, l'ère de Donald Trump... Ah, est-ce que je veux envoyer quelque chose, me demande Siri. Non, je ne sais pas à qui ni quoi, donc on va dire non. La valeur de Twitter a beaucoup changé avec l'ère de Donald Trump. Et c'est vrai que le réseau social, on se posait beaucoup de questions dessus. Selon certains, on va dire, il y avait des gens qui appréciaient beaucoup, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que son importance est indéniable. Après 4 ans de l'ère Donald Trump, peut-être qu'il va être en retrait désormais à son départ de la présidence américaine d'ici 2 mois. Et du coup, Twitter est peut-être en train de se chercher pour son après-Donald Trump. Peut-être qu'ils veulent modifier un petit peu la manière dont on utilise le réseau. Et peut-être que c'est un des moyens par lesquels ils essayent de faire ça. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais il n'y a pas de modération, c'est prompt à du harcèlement aussi, etc. etc. » Je peux le comprendre, mais est-ce que vous pensez que ça va un petit peu changer la nature de Twitter ? Et j'inclus dans cette réflexion une autre fonctionnalité qu'ils sont en train de développer qui s'appelle, je crois, les Rooms, qui sont un équivalent d'un réseau social qui a eu beaucoup de popularité ces derniers mois, qui s'appelle Clubhouse, qui est en fait l'équivalent de, comment dire, vous pouvez ouvrir une pièce de conversation, un channel de conversation audio, n'importe qui peut vous rejoindre, il y a peut-être une limite de nombre de personnes, mais n'importe qui peut vous rejoindre et parler avec vous, ou vous pouvez décider qui va vous rejoindre et parler avec vous, et les gens peuvent écouter. C'est une sorte de diffusion audio, comme on a de la diffusion par texte, mais sauf que c'est en direct. Alors, ils ont déjà essayé plein de choses sur Twitter avec le direct et l'audio. Là, c'est encore une tentative, mais Clubhouse était vraiment très populaire et a eu des problèmes avec des discours, on va dire, pas forcément très acceptables, qui étaient tenus sur la plateforme. Donc, ça risque d'être un problème avec Twitter également. Mais ils essayent de prévenir la chose en donnant accès à cette fonctionnalité au départ à des personnes dans des minorités plutôt que de l'ouvrir à tout le monde, c'est-à-dire qu'il va y avoir des femmes de minorités ethniques qui vont y avoir accès au départ avant les autres pour essayer d'apprendre et de mitiger ce genre de problème. C'est Twitter qui se cherche encore un petit peu, mais peut-être encore plus après la fin ou un changement de l'ère Trump. Je ne sais pas si vous pensez que ça peut aider Twitter, toutes ces nouvelles initiatives, ou si ça peut même transformer le réseau. Moi, je ne sais pas non plus. C'est clair qu'il y a des choses qui changent, mais est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Est-ce que ça peut changer les choses pour Twitter ?
Bah, tu as le sentiment, en fait, que Twitter est en train de devenir beaucoup plus généraliste, là où ils étaient très spécialisés sur du texte court. Ils sont en train de se devenir plus généralistes. Ils cherchent du temps passé, hein, ils cherchent de l'engagement de l'utilisateur. Donc, tu as l'impression qu'ils cherchent effectivement toutes les fonctionnalités qui servent à ça. à faire passer plus de temps encore les personnes sur leur
réseau
social.
Sur la plateforme, oui.
Donc c'est le sentiment que ça donne. Effectivement, du coup, c'est là où les cyniques diront qu'effectivement, il y a peut-être d'autres fonctionnalités d'abord à ajouter plutôt que celle-là. Je n'en citerai pas, je ne me mettrai pas dedans, encore que. mais effectivement, ça laisse vous poser ces questions en disant justement, l'ère Trump aurait souhaité que ça nous amène d'autres fonctionnalités qui empêchent ces problématiques qu'on a pu voir avec Trump. Après, est-ce que Trump va disparaître complètement de Twitter? J'en suis pas sûre, hein. L'ère est peut-être pas complètement finie. Hein.
Disons que ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont annoncé, et d'autres l'ont fait aussi, ils ont annoncé que les exemptions de règles du président américain allaient être révoquées à la fin de son terme, en tant que président. Ils ont aussi annoncé, et Facebook a fait pareil, que tous les comptes officiels, le compte POTUS, President of the United States, FLOTUS, enfin bref, tous les comptes associés au gouvernement vont être transférés, que les gens qui en ont aujourd'hui le contrôle le veuillent ou non. Donc ça va quand même, on va dire, mettre un petit peu de sourdine sans doute sur la chose. Mais ensuite, est-ce que Twitter voudra que cette activité soit moindre de la part du président et de ses acolytes? On ne sait pas, parce que ça leur faisait aussi beaucoup d'activités. Les rooms, comme on en parlait, ça peut aussi donner lieu à des excès qui ne sont pas souhaitables. Disons que mon optimisme indéniable, comment dire, pas indéniable, mais inattaquable, me fait penser qu'il est intéressant d'avoir des choses nouvelles, différentes à essayer. Ce qui fonctionne, on le garde. Ce qui ne va pas fonctionner, on le changera ou on le supprimera. Mais l'idée, par exemple, d'avoir l'équivalent d'un channel Discord sur Twitter avec des sujets, on peut avoir rejoindre la room d'un compte qu'on aime bien, qui, si c'est limité en taille, bon, ça peut être un petit peu exclusif, hein, et sur des sujets vraiment spécifiques, parce qu'il y a des comptes Twitter comme les pages web sur tous les sujets. Ben là, ça peut amener des gens à discuter en de vive voix, peut-être de manière un petit peu moins impulsive et inconsidérée qu'ils ne le feraient en s'envoyant des tweets à la figure, parce que c'est plus facile d'écrire un tweet insultant que de dire à quelqu'un, même si ça arrive aussi, hein, on le sait bien, et les fans de jeux vidéo le savent, dans les chatrooms, ça peut arriver, et ça arrive même souvent, qu'on s'insulte de vive voix, mais peut-être que ça sera une manière d'approcher la chose différente, je sais pas. Moi, je me dis, ça peut être intéressant à tester, peut-être que je le regretterai.
Non, mais on va pas leur reprocher de tester des choses et de chercher des choses nouvelles, ça c'est sûr. Mmh. Après, effectivement, ça sera leur capacité à dire, en fait, ça fonctionne pas et à passer.
Ouais. Surtout que c'est un réseau social et c'est même un outil qui a très peu changé depuis sa création. J'ai quand même le sentiment que depuis une quinzaine d'années que Twitter existe, il n'y a pas eu fondamentalement de grosses évolutions. Oui, il y a eu, passer de 140 à 280 caractères, mais les mécaniques de base... Moi qui travaille au quotidien, mon premier travail avant de faire des podcasts, c'est de faire de l'animation de communauté et d'animer des réseaux sociaux. Quand je fais des formations sur les usages de Twitter, ma formation, elle n'a pas changé en plusieurs années. Les fonctionnements cœur, ça reste les mêmes. Et quand ils ont essayé d'avancer, au travers notamment de Periscope, c'était avec des outils périphériques. On va effectivement pas leur reprocher de nous proposer des nouveaux usages. Il faut quand même nous convaincre, hein, ça suffira pas. Mais c'est quand même très chouette de voir qu'il y a des nouveaux usages qui sont proposés, c'est sûr.
Bon, écoutez, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de toute cette histoire. Un petit mot quand même en passant pour dire que Snap, de Snapchat, a annoncé Spotlight, qui est une fonctionnalité à la TikTok, ils vont payer les utilisateurs les plus prolifiques qui vont créer des choses intéressantes sur toute la fin de l'année. En gros, TikTok, l'équivalent de TikTok arrive dans Snapchat, ce qui est quand même un juste retour des choses, puisque tout le monde a pillé les stories de Snapchat, eux, ils se mettent à piller TikTok. Je pense que c'est juste, on va dire ça comme ça. Je vais faire une petite pause pour vous proposer de vous parler de quoi ? Dites-le avec moi. le Patreon du Rendez-vous Tech. Et oui, je dis, je vais vous proposer, mais en fait, si vous êtes patriote, vous n'avez même pas ce petit morceau de podcast. Si vous ne l'êtes pas, je suis sûr que vous êtes heureux de l'écouter parce que vous apprenez comment vous pouvez soutenir votre émission préférée. C'est vrai que, bon, peut-être qu'elle n'est pas votre émission préférée, mais si vous l'écoutez depuis quelques semaines, quelques mois, c'est que vous l'aimez bien quand même. Donc, j'espère que si vous l'aimez bien, vous considérerez l'idée peut-être de la soutenir, d'échanger la valeur que vous recevez contre une valeur, bah, en l'occurrence financière, en soutenant financièrement l'émission sur patreon.com/rdvtech. Je dis, j'espère que vous considérerez, parce que évidemment, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait choisir de ne pas le faire ou décider que vous aimez bien l'émission, mais pas à ce point-là. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Mais si vous y pensez pendant quelques instants, peut-être que vous vous direz c'est vrai qu'elle est quand même sympa et peut-être qu'en allant sur patreon.com/rdvtech, vous allez voir qu'il y a des bonus vraiment intéressants, comme par exemple le fait d'avoir des émissions sans pub, absolument sans pub et sans cette petite partie promo au milieu. Vous pourrez avoir les time codes des différentes parties. Par exemple, si vous dites « Oh là là, le truc sur Twitter, ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, j'étais là pour les processeurs Apple. » Eh bien, vous auriez pu aller directement au passage en question qui vous intéressait grâce aux timecodes qui sont présents sur le flux privé. Vous pouvez aussi avoir accès à une newsletter étendue. Vous êtes certainement déjà abonné à la newsletter sur notepatrick.com, mais vous avez une newsletter étendue avec des articles un petit peu plus en profondeur, d'autres choses intéressantes que j'ajoute à la newsletter étendue, enfin plein de petits bonus qui font que j'ai envie de vous donner envie de soutenir l'émission en fait. Et si vous l'appréciez déjà, et ben peut-être que ça, vous vous direz bah, pourquoi pas, allez banco, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas? Il y a plein de raisons pour ne pas le faire, peut-être, mais peut-être aussi que vous vous diriez « Ah bah ouais, c'est vrai, pourquoi pas, j'aurai pas de pub, j'aurai les time codes, j'aurai des bonus, j'aurai des trucs en plus, et en plus de ça, j'aurai le plaisir de soutenir Patrick. » Regardez-moi dans les yeux, là, écoutez-moi dans les oreilles. Le plaisir de soutenir Patrick, la fierté d'être un producteur du Rendez-vous Tech, la fierté de participer à sa création. Franchement, je pense que c'est une chose à considérer. Si vous le considérez, patreon.com/rdvtech. Et si vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez le faire sur votre mobile, bien sûr. Mais quand vous arrivez chez vous, vous mettez les clés dans le bol et dites-le avec moi. 1, 2, 3, cling, Patrick. Ça fait cling dans le bol et vous dites... ça marche bien, ça. Hein, cling, Patrick. Et vous vous dites, ah bah c'est le moment d'aller voir sur patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous de considérer cette idée.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon allez, on va parler Apple un petit peu. Hein. Guillaume, je sais que t'attendais que ça. Non, peut-être pas.
Évidemment, je ne suis venu que pour ça, pour t'entendre, Patrick.
Apple a donc mis en vente ses premiers processeurs, ses premiers ordinateurs équipés d'un processeur qu'ils ont conçu eux-mêmes, le processeur M1. Et ils nous promettaient monts et merveilles, ils nous promettaient quelque chose de révolutionnaire. Ça avait l'air d'être le cas, on était surpris aux annonces, mais on attendait bien sûr prudemment d'avoir les premiers tests de journalistes indépendants pour juger de la chose. Eh bien, patatras, et non, pas patatras, qu'est-ce que c'est le contraire de patatras? Badaboum, non, un bruit d'étoiles qui monte dans le ciel.
CQFD, non?
Ouais, peut-être.
Abracadabra.
Abracadabra, ça fonctionne, c'est presque magique, effectivement. Non seulement le processeur M1 est, comme on pouvait s'y attendre, extrêmement efficace au niveau de l'autonomie. On m'a fait la remarque qu'on n'avait pas insisté sur ce point la semaine dernière, et c'est vrai qu'il est important. On a des appareils mobiles, enfin des portables, des ordinateurs portables, qui ont des autonomies amis qui sont entre 17 et 20 heures d'autonomie. Rendez-vous compte d'usage. Alors, c'est des usages spécifiques, mais c'est toujours comme ça qu'on calcule. On a une autonomie qui est quasiment doublée par rapport à ce qui se faisait avant. Donc ça, on s'y attendait un peu. Mais ce qui est confirmé et qui est intéressant par les tests indépendants, c'est que la puissance est aussi au rendez-vous. On a des appareils qui réussissent à être plus efficaces et plus autonomes en étant plus puissants que l'équivalent chez Intel. Et ça, c'est confirmé et c'est totalement fou et ça transforme l'industrie. L'un des éléments qui est intéressant à noter pour les techniques, pour les gens qui sont vraiment techniques parmi les auditeurs, c'est que il y a plein de raisons pour lesquelles c'est très puissant, ces processeurs, mais l'une des raisons, c'est que la RAM, la mémoire, est directement intégrée au processeur lui-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas un élément informatique séparé, un composant séparé à brancher sur la carte mère. La RAM est dans la puce du processeur, ce qui fait que les temps de communication aux échelles de l'informatique, hein, donc on parle en nanosecondes, les temps de communication sont réduits par rapport à une machine où la RAM est à l'extérieur du processeur, et donc ça contribue à avoir une efficacité incroyable, et on a des compétences, des résultats qui sont absolument en phase avec ce qui avait été annoncé, ce qui est assez rare. Ils sont plus puissants non seulement que les processeurs Intel équivalents, enfin des machines équivalentes d'il y a encore quelques mois, mais en plus de ça, même quand ils exécutent des applications en émulation, en quelque sorte, hein, je simplifie, mais en émulation de processeurs Intel, eh ben ils sont plus rapides quand même que les processeurs qu'ils émulent, ce qui est généralement impossible. Quand on émule un processeur différent, on a une perte de performance qui est sensible. Donc, Apple réussit son coup, arrive à réaliser une vision de produit de consommation unifié où il gère tous les éléments, le logiciel et tout le matériel. Et surtout, un des trucs qui est intéressant, c'est qu'ils remettent encore plus que ça n'était le cas auparavant, en question la position de Intel, qui était en perte de vitesse depuis quelque temps, mais là, ils leur mettent une claque très bien sentie. Moi, je crois que c'est un tournant dans l'histoire de l'informatique, c'est un tournant pour ce qui est des composants et des processeurs, qui va avoir des réverbérations dans le monde de l'informatique pour des années à venir. Je ne sais pas s'il y a des conclusions très précises qu'on peut amener à ce genre de choses, et il y a peut-être des conclusions un petit peu plus, concrètes avec le plaisir qu'on aura à utiliser des appareils équipés de ce type de processeurs. Je crois que vous êtes tous les deux plutôt Macintosh, Guillaume et Gaël, si je ne m'abuse.
Fanboy assumé, en tout cas, de mon côté.
Oui, ouais, Gaël, peut-être pas fangirl, mais utilisatrice.
Alors, non, moi je suis très particulière, c'est-à-dire que pour un ordinateur, j'utilise un PC, et pour tout ce qui est mobile, tablette, mobile, je suis Apple.
Ah, t'es un peu comme moi en fait. Voilà. Moi j'ai un pied dans les deux.
Je suis bi.
on est tous les deux bi, c'est ça. Mais du coup, Guillaume, toi en tant qu'utilisateur Apple, est-ce que ça, j'imagine que ça t'enthousiasme, mais en tant qu'analyste de la chose technologique, qu'est-ce que tu conclus de tout ça?
Écoute, alors oui, c'est hyper intéressant la manière dont tu poses la question, Patrick, parce qu'effectivement, les deux regards, en tant qu'utilisateur, je suis hyper enthousiaste. Ma femme avait commandé un MacBook Air Intel il y a de ça quelques semaines. Et bon, quand ils ont fait la présentation du M1 il y a quelques jours, on a renvoyé le MacBook Air pour commander une nouvelle version. Je pense que mais aussi parce que je suis là, parce que pour un utilisateur lambda, classique, pour le grand public, c'est Cassim, hein, d'ailleurs, qui l'a dit, je reprends ses propos, c'est une très mauvaise année pour recommander des Macs, parce qu'on ne sait pas ce que vont donner les Mac Intel à moyen et long terme, et il en reste en vente. Et en même temps, peut-être qu'il est encore un petit peu tôt pour conseiller des Macs avec ARM, avec les processeurs M1, c'est peut-être intéressant d'attendre encore un petit peu si on veut acheter un Mac cette année. D'autant que C'est vrai que quand on regarde un petit peu, quand on fait une veille, un panorama de ce qui se dit, les retours sont très impressionnants. On parle d'ailleurs de performances graphiques équivalentes pour des jeux même supérieurs à des 1050 Ti, donc on va dire des cartes graphiques d'entrée de gamme pour les gamers. Donc vous me passerez la blague, mais évidemment Fortnite pourrait très bien tourner en Full HD sur votre Mac. Malgré tout, il y a quelques témoignages qu'il ne faut pas non plus ignorer, qui nous rappellent un petit peu à la réalité et il faut savoir se faire l'avocat du diable, comme tu sais si bien le faire, Patrick, dans le rendez-vous oui. tech, parce qu'il y a quelques éléments à souligner. Par exemple, le MacBook Pro, de par ce M1, a priori, ne propose pas plus que deux ports USB-C. Ça peut être vite une limitation, donc ça va évoluer, mais on est quand même sur une période de transition qu'il faut souligner. Il y a aussi plein d'applications qui ne sont pas encore toutes utilisables. Hein. Il y a des témoignages avec des applications qui ont un peu pignon sur rue, hein, des applications qui permettent de faire fonctionner les webcams Logitech. Il y a Edge, Outlook, WinZip.
On est clairement dans une transition, quoi.
On est dans une phase de transition, même les drivers de ton imprimante HP. Tu imagines, tu achètes un Mac M1 et il va falloir que tu attendes avant de pouvoir imprimer. Je caricature un petit peu, mais il y a de ça. Il y a des applications pour lesquelles les développements ne sont pas encore satisfaisants et il y a des lenteurs. Alors certes, pour des outils très très classiques et très emblématiques, ça marche bien. Malgré tout, il y en a plein d'autres pour lesquels ça marche pas bien, pour lesquels c'est pas possible de l'installer, pour lesquels l'autonomie non plus n'est pas au rendez-vous. Donc, effectivement, en tant qu'utilisateur averti, moi, je n'ai qu'une envie, c'est de me jeter dessus parce que ce qu'on nous souligne en termes de performance est très enthousiasmant. Mais il est peut-être urgent d'attendre pour le consommateur grand public, d'autant que la gravure en 5 nanomètres qui permet aussi en partie ses performances, notamment sur le plan énergétique, vont arriver aussi sur les autres processeurs. Alors, il n'y aura pas l'intégration du M1, en tout cas pas à ce point-là. Mais il est peut-être urgent d'attendre, en fait. C'est pour ça que, comme tu dis que c'est un tournant dans l'histoire informatique, il faut peut-être le prendre aussi au pied de la lettre et pas se jeter sur ce tournant.
Ouais, quand il y a des attendre qu'on soit revenu dans la ligne droite.
Voilà, c'est ça, exactement.
Ouais, je peux comprendre, effectivement. C'est vrai que je parle plus de l'industrie dans son ensemble, parce que si Intel perd beaucoup de sa superbe, c'est aussi l'industrie du PC qui va être affectée. Bien sûr, on a de l'autre côté AMD qui est en phase montante par rapport à Intel depuis un moment. Et puis, on a les processeurs ARM. Le processeur M1 est tellement différent des autres, en partie parce que c'est un processeur qui utilise une architecture différente du x86 d'Intel, et du 32 et 64 bits, bien sûr, mais du x86 de Intel, et qui ne s'embarrasse pas de tout l'héritage de cette structure. On peut voir arriver des processeurs ARM du côté de Windows également, parce que c'est à ça qu'on pense quand on pense à Intel avant tout. Mais ça va forcément être compliqué pour Microsoft de gérer les choses aussi bien qu'Apple, puisque pour le coup, ils n'auront Apple à la maîtrise, comme je le disais, du matériel et du logiciel. Microsoft aura difficilement la maîtrise du matériel jusqu'au processeur. Encore que, pourquoi pas ? Peut-être qu'ils pourraient se dire on veut aller aussi loin que ça, mais ça n'a jamais été leur objectif. Ils ont commencé à faire des ordinateurs entiers eux-mêmes il y a quelques années, mais de là à concevoir des puces informatiques, il y a quand même un pas. C'est plus la même histoire. Donc moi, je ne les vois pas se lancer dans ce type d'activité. Gaël, du coup, est-ce que toi, tu imagines que ça puisse avoir des conséquences sur Intel, que ça les pousse encore un petit peu plus loin dans, je ne vais pas dire l'oubli, parce qu'on n'en est pas là encore, mais ils ont intérêt à se bouger quand même.
Mais alors, je ne suis pas ingénieur, mais je t'avoue que moi, je suis époustouflée en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un jump en puissance qui est assez, comme tu le disais, enfin, on est un vrai tournant, c'est révolutionnaire. Et tu te demandes comment c'est possible d'avoir un jump aussi fort d'un seul coup. On a toujours vu que la puissance augmentait petit à petit, mais là, on a le sentiment que, en plus, enfin, c'est le processeur, c'est le cerveau de la machine. Autant de puissance, c'est presque flippant C'est-à-dire que la machine, elle va prendre possession de toi, à force. Mais oui, pour Intel, je pense que c'est une claque énorme. Qu'il ne l'ait pas vu venir, ça me paraît fou.
Ah, mais c'est ça le pire. C'est qu'il le voit venir depuis des années. Ils sont en perte de puissance depuis des années. Et là, ils ont, depuis l'année dernière, fait un remaniement significatif de la manière dont ils gèrent les choses. Mais peut-être que...
Oui, mais tu as le sentiment qu'ils n'ont pas pris la mesure. Enfin, ils l'ont vu venir, mais là, ouais. Ils étaient en train d'essayer de se relever, mais ils sont repris une claque, comme tu disais, monumentale. Mmh. En revanche, après, il ne faut pas oublier quand même que Apple, pour les ordinateurs, ça reste quand même, en termes de... Si je prends l'utilisateur lambda, ça reste quand même beaucoup plus cher. Et que c'est pas accessible pour tous. Donc, à voir aussi l'impact que ça aura sur les ventes. Je pense que Intel a encore quelques années devant eux, mais s'ils prennent pas là l'accélération, effectivement, dans quelques années, on pourra se poser la question.
Ouais, c'est ce qu'on est en train de constater chez eux. Ils ont depuis quelques temps essayé de. Le gros problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire une gravure plus fine que. Ils ont du mal déjà à atteindre à 10 nanomètres et on est sur 5 nanomètres du côté des processus ARM et on a des informations selon lesquelles la prochaine étape, ça sera le 2 nanomètres en 2024. Donc imaginez, plus de finesse pour ceux qui ne comprennent pas, plus de finesse, ça veut dire plus de processeurs sur une taille équivalente et moins de dissipation thermique parce qu'on a moins de chaleur qui passe dans les circuits. Et du coup, plus on a une finesse de gravure importante, plus on peut avoir 2 transistors sur la machine, plus de fonctionnalités, plus de puissance avec une dissipation thermique, donc une autonomie plus grande. Intel qui a encore du mal à passer à 10 et on est à l'horizon des 2, on est très clairement dans le 5 maintenant et à l'horizon des 2 bientôt, ça sent mauvais pour eux, mais ils sont en train de travailler d'arrache-pied, je suis sûr, pour essayer de revenir dans la course. Ils ne sont pas complètement hors de la course, hein, faut pas exagérer, mais tout de même, on a AMD en embuscade qui fait des processeurs qui sont plus puissants et mieux conçus que les processeurs Intel. La petite interrogation qui reste encore, à mon avis, c'est surtout celle de la performance quand on n'est plus sur des petites machines. C'est-à-dire que le processeur M1 est aujourd'hui sur le MacBook Air et le MacBook Pro, qui est en gros un MacBook Air avec un ventilateur qui peut dissiper plus de chaleur, donc aller un petit peu plus vite, mais c'est en gros un processeur de MacBook Air. Le Mac Mini, qui est une toute petite machine, je suis curieux de voir ce que ça donne sur des iMac, des iMac Pro, des Mac Pro. Il est possible que ça ne soit pas aussi impressionnant que ça ne l'est sur les petites machines, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont commencé avec les petites machines, mais il est également possible que ça soit tout aussi impressionnant à ces niveaux-là. Mais on a quand même l'interrogation qui reste encore. Ça, on ne sait pas et on le verra sans doute dans les mois à venir.
Et puis c'est peut-être aussi le début aussi de la vraie transition pour qu'on passe tous sur de l'iPad Pro. Hein. Au final, est-ce qu'on aura vraiment encore de l'ordinateur ou est-ce qu'on va plutôt être sur de la tablette pour travailler ?
C'est une chose dont parlent beaucoup de gens qui ont eu ces ordinateurs entre les mains. Ils disent c'est tellement rapide qu'on a l'impression d'avoir un iPad entre les mains en fait. C'est-à-dire que quand on clique sur une application pour la lancer, elle se lance directement. Comme sur appareil iOS ou sur Android d'ailleurs, on est dans un confort d'utilisation qui approche celui des appareils très consumer product que sont les téléphones mobiles. Donc, à voir ce que ça donnera.
Il y a quand même un élément... Il y a quand même un élément à souligner là-dedans parce que vous dites que Intel se prend quelque part une gifle avec cette proposition de la part d'Apple. Il ne joue pas non plus avec les mêmes contraintes. Intel doit prendre en compte un parc matériel hyper large qu'il ne maîtrise pas et ils doivent afficher une compatibilité. Aujourd'hui, si je veux changer ma carte graphique, augmenter ma RAM, etc., j'ai encore cette possibilité avec un PC. Moi, Guillaume Vendée, je n'ai pas forcément envie, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est important. C'est important aussi de ne pas avoir de limitations parce qu'on on voit qu'avec le M1, par exemple, on peut avoir qu'un seul écran externe en plus. Ça évoluera, encore une fois, on est sur une étape de transition, mais ça reste des limitations importantes. Et puis, dernière chose, vous mentionnez l'iPad et le MacBook à très juste titre, mais on peut même aller encore plus loin. Vous vous souvenez de cette pub pour l'iPad à la télé où Apple nous dit « Mais c'est quoi un ordinateur ?» C'est un enfant un peu naïf qui disait « Mais c'est quoi un ordinateur ?» Et quelque part, on peut presque se demander est-ce que le MacBook et est-ce que les ordinateurs Apple sont encore des ordinateurs? C'est une question pas tant tech que philosophique.
Un petit peu provoque, on va dire, mais oui, ok.
Un peu, mais parce qu'il y a une certaine forme de fermeture qui s'opère et dont il faut rester conscient. Alors, on ne va pas lutter contre l'avancement et la modernité, hein, surtout pas dans ce podcast, mais c'est quand même hyper important de le souligner qu'on est dans une trajectoire où la fermeture est de plus en plus grande et l'évolutivité, le fait de pouvoir mettre les mains dans le cambouis, de pouvoir installer ce qu'on veut sur son ordinateur, à la fois sur le plan logiciel et matériel, on est doucement en train de le perdre chez Apple, y compris sur les ordinateurs.
Je dirais que ça, ce n'est pas forcément dû au M1, c'est une autre question.
C'est un élément de plus.
C'est vrai, ouais. Et ce que tu disais sur la compatibilité nécessaire du côté d'Intel, tu as tout à fait raison, et c'est pour ça que c'est tellement préoccupant pour les ordinateurs que Gaël et moi apprécions tant que sont les PC. Alors, ils ne vont pas disparaître du tout, bien évidemment. Et maintenant, comme on le faisait remarquer dans la chatroom, que Nvidia a mis la main sur ARM, bah, ils vont travailler d'arrache-pied, je suis sûr, pour essayer de proposer une alternative là où des sociétés comme Intel ou peut-être même AMD n'y arrivent pas. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a une telle compatibilité, des tels problèmes de compatibilité dans le monde du PC qu'Apple a la main mise, comme je le disais avec le titre de l'épisode précédent, qui était extrêmement bien trouvé. Hein. C'était un jeu de mots d'une qualité rare. je suis la modestie fait homme. Et maintenant qu'Apple a non seulement la mainmise sur son logiciel, mais sur tout son matériel, le processeur en tout cas, c'est eux qui le fabriquent eux-mêmes et une grosse partie de leur matériel, il est difficile d'être en concurrence sur ce point. Et peut-être que ça voudra dire qu'il y aura, d'autres fabricants, d'autres types d'ordinateurs qui pourraient voir le jour des choses un petit peu plus fermées ou contrôlées que les PC tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais en même temps, c'est... Enfin bon, ça ouvre des discussions hyper intéressantes et c'est ce que fait, je trouve, l'arrivée de ce processeur.
Bon, c'est Seb qui nous regarde, Patrick, dans la chatroom, là, en live, et qui est soit très déçu par son Mac M1, soit très généreux. Il te dit, Patrick, intéressé par une config en M1. Donc, je ne sais pas, peut-être que c'est Seb veut t'en offrir une. En tout cas, je l'invite à te le proposer ouvertement, si c'est le cas, enfin.
Écoute, je ne dirai pas non pour le bien de l'émission, évidemment. Hein, pour le bien de l'émission, tu seras même parmi les producteurs de l'émission cités en début d'émission une fois par mois, c'est Seb, si c'est ce que tu souhaites faire. Intéressé par un M1? Oui, intéressé, pour répondre à cette question qui a été posée peut-être de façon un peu facétieuse. Oui, bien sûr. Je veux dire, je ne sais pas si je vais acheter une machine de ce type. Je vais sans doute attendre un petit peu parce que j'ai énormément de dépenses déjà cette année et j'ai un gros PC qui va arriver. Donc ça joue également. Mais oui, bien sûr, on ne peut pas ne pas être intéressé par cette machine si on s'intéresse à l'informatique, je pense, parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées jusqu'à maintenant. Bon, allez, on va encore parler d'Apple, mais dans un domaine totalement différent, qui est celui de l'App Store. C'est un moyen de constater à quel point Apple a les mains partout, puisqu'ils ont annoncé, suite à leur, on va dire généreusement, discussion avec Epic Games, qui avait retiré son jeu Fortnite de l'App Store en protestation contre la commission de 30% qu'impose Apple aux ventes de tout ce qui passe par son App Store, eh bien, Apple a annoncé qu'ils allaient, dès 2021, réduire cette commission de 30% à 15%. Mais attention, il y a un loup, ils réduisent ça pour tous les revenus de 1 million de dollars ou moins par an. C'est-à-dire que tous les développeurs qui font moins d'un million de dollars ne devront plus payer que 15% et la taxe d'Apple s'appliquera comme dans tous les bons pays qui ont une bonne dose de socialisme et de gouvernement actif. Ils taxent plus les revenus plus élevés. J'ai un petit peu raté ma blague, c'était beaucoup plus drôle dans ma tête, hein, mais c'est pas faux quand même.
T'as vu, on rigole quand même.
Ouais,
on
merci,
était dans
merci,
ta tête avec
gentil,
toi.
C'est gentil. Donc, ils vont taxer, ils vont prendre une commission de 30% à partir $1 million de revenus annuels. Ce qui est vraiment, vraiment bien joué d'un point de vue business. Hein, je ne porte pas de jugement de valeur, mais d'un point de vue de business, c'est vraiment bien joué de la part d'Apple parce que l'un des arguments de Fortnite, l'un des arguments de Epic était « Nous nous battons pour tous les développeurs et tous ces petits développeurs qui doivent payer 30% de leurs revenus à Apple, ce qui est une somme monumentale. » Ce qui n'était pas forcément faux. Hein, on pouvait en débattre, mais ce n'était pas forcément faux. Et bien là, Apple sapent complètement cet argument et dans le même temps, ils abandonnent une minuscule partie de leurs revenus puisque selon les analyses indépendantes, comme le dit Apple, ça représente effectivement 98% des développeurs, donc ça couvre une énorme partie des développeurs, mais ça représente également moins de 5% des revenus de l'App Store. L'essentiel des revenus se font par des énormes sociétés qui sont très peu nombreuses au final. C'est vraiment drôle parce que c'est ce que je disais au départ de cette histoire. Je disais, vous savez, Epic se bat pas pour vous, Apple se bat pas pour vous, Epic se bat pas pour les tout petits développeurs. C'est une histoire qui se passe entre des énormes sociétés qui essayent de trouver le moyen de maximiser leurs revenus. Et si Epic pourrait arguer du fait qu'ils ont une base philosophique à leur discussion, Tim Sweeney a effectivement une action en ce sens à de nombreuses reprises. On est quand même dans une configuration un petit peu hypocrite quand on dit on se bat pour tous les petits développeurs et quand Spotify et d'autres se joignent à ce concert. D'ailleurs, Spotify et d'autres n'ont pas tardé à se lancer dans la discussion en disant c'est une honte, Apple manipule les choses pour essayer d'obtenir ce qu'ils veulent et continuer leur taxation arbitraire, etc., etc. Moi, je trouve tout ça relativement amusant. Je continue à me demander comment ça va se terminer. Et à côté de ça, Nvidia est en train de lancer son service GeForce Now, tout comme Google Stadia, les services de streaming de jeux vidéo. Services de streaming de jeux vidéo qui avaient été interdits par Apple sur l'App Store. Donc, ils sont en train de les lancer par le web avec, et on revient à notre sujet, une version spéciale de GeForce Now qui inclura, qui sera dédiée à Fortnite. Et donc, Epic revient sur iOS très bientôt par la petite ou la grande porte avec le streaming de jeux vidéo par le web et non plus par l'App Store. Donc, tout ça est en train de se clarifier, de se simplifier ou en tout cas de se résoudre. Mais pour revenir à cette question des 15% et des 30%, est-ce que ça vous amuse autant? Peut-être, Gaël, est-ce que ça t'amuse autant que moi d'un point de vue business? Moi, je trouve ça très bien joué.
Alors, moi, je suis ravie, je remercie Epic, parce que moi, je vais en bénéficier.
Ah oui. Ah, comme donc, quoi, ils se battent peut-être, effectivement.
Ah bah, à l'insu de leur plein gré, ils vont me permettre de ne payer que 15% versus 30%. Donc, donc quand même, je les remercie et je pense que je ne suis pas la seule. Et j'avoue, c'est très fort de la part d'Apple, parce qu'effectivement, quand j'ai vu la news, je me suis dit, ah, oh, génial, merci Apple. Bon, après, tu réfléchis 30 secondes et tu dis, bon, c'est juste que le racket s'est arrêté. Donc, effectivement, je reviens à quelque chose de plus normal. Après, effectivement, là où Epic a raison, passer d'un seul coup de 15 à 30%, en général, dans le business, tu fais des paliers. Tu ne fais pas 15 à 30 quand tu passes un palier. Tu ne doubles pas comme ça des pourcentages sur un palier.
Oui, mais tu sais comment fonctionne Apple. Tort, c'est simple chez eux. C'est
oui,
moins
c'est ça, c'est pour simplifier. C'est ça. C'est parce qu'ils sont dans la simplification, tu as raison, de l'usage. Ça doit être ça. Non, mais oui, c'est amusant parce que tu as tout à fait raison de le dire. Et personne ne le faisait de manière philanthropique. C'est chacun pour soi. Après, il y en a qui en bénéficient. Donc voilà, j'en fais partie. Je suis heureuse.
N'oublie pas de faire ta demande. Hein. Ils ont déjà, je crois, ouvert le format.
je vais le faire tout de suite après. Après, voir où ça va. Non, mais les choses bougent. En tout cas, ça veut dire que les choses bougent et c'est pas fini. Je pense que c'est ça qu'il faut se dire, c'est que le début et c'est pas fini et ça va continuer à évoluer, je pense. Je suis très optimiste.
Aussi, ouais. On parle d'argent, il y a également YouTube qui a annoncé que toutes les chaînes allaient avoir de la publicité désormais. Toutes les chaînes, qu'elles le veuillent ou non, vont avoir de la publicité. Alors, les grosses chaînes partenaires pourront désactiver la publicité si ils ou elles le souhaitent. J'imagine que peu d'entre eux le souhaiteront. Mais c'est YouTube qui continue à essayer de ramasser encore plus d'argent, enfin autant d'argent que possible avec leurs produits, ce qui peut se comprendre. Et puis en même temps, il faut avouer que le service coûte très cher à opérer et les chaînes, petites chaînes qui n'ont pas encore accès à la monétisation, parce qu'elles n'ont pas, il y a certaines conditions à remplir, bah bénéficient quand même du service. Et donc le fait qu'il y ait des pubs sur leur chaîne, ça peut se comprendre. Par contre, si on n'a pas accès à la monétisation, il y aura des pubs sur leur chaîne et sur leurs vidéos, mais ils n'auront pas la part qui revient à ceux qui ont accès à la monétisation. Donc, tant que vous n'avez pas 1000 abonnés et 4000 heures de vues, il y aura des pubs sur vos vidéos, mais pas d'argent pour vous. Donc, bon, moi, franchement, je sais qu'on pourrait dire c'est un scandale, c'est lamentable. Moi, ça ne me choque pas quand on sait combien d'argent ça coûte et quelle infrastructure est nécessaire pour diffuser de la vidéo sur Internet. Mais bon. Voilà, c'est un changement intéressant. L'iPhone 12 Pro Max a, selon certains, des qualités qui s'approchent véritablement de, d'appareils photo traditionnels. Je ne sais pas si on est vraiment prêt à dépenser l'argent pour un iPhone 12 Pro Max. Moi, je me suis limité à l'iPhone 12 Pro. Mais on a effectivement un capteur qui a une taille beaucoup plus importante que précédemment. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils n'ont pas ajouté des pixels sur ce capteur pour profiter de la taille supplémentaire, mais agrandi la taille des pixels. Donc, entre ça et les éléments logiciels qui améliorent la qualité des photos, on a des résultats qui sont qui arrivent à un niveau qui est presque comparable, selon certains, à des appareils photo plus classiques. N'hésitez pas à
m'interrompre. Ce qui est rigolo, c'est le témoignage. Ce qui est rigolo, c'est l'article sur lequel tu te bases. Alors, est-ce que je me trompe ou c'est la société Alid, l'application Alid, là, qui fait l'application de prise de vue photo sur iPhone, qui prétend faire des photos plus belles que celles de l'iPhone telles que c'est livré de base. Et c'est pas tout à fait faux en plus parce que ça permet des réglages que l'application native ne permet pas de faire. Et ce qui est génial, c'est quand tu regardes l'article et que tu le déroules. Moi, je l'ai vu à l'occasion des notes de l'émission, et il montre à quel point Alid permet de faire des encore plus belles photos que l'application native de l'iPhone. Je trouve ça très malin de leur part.
Tout à fait, oui. Alors, tu as bien raison de le préciser, il faut rester circonspect face à ce genre de déclaration et voir qui les fait et pourquoi. Ce que je note, moi, encore plus que le reste, c'est que on commence à arriver dans cette conversation. Et je pense que la conversation, ça suit la même trajectoire depuis des années. Je pense que la conversation va avoir lieu pendant des années encore. Mais vous vous souvenez, il y a une époque où les téléphones mobiles, c'était un petit peu des blagues et on avait quand même notre appareil numérique, les petits point and shoot, qui faisaient de meilleurs... Aujourd'hui, évidemment, les seuls appareils photo dédiés qu'on considérera meilleurs que ceux des téléphones mobiles, c'est ceux qui sont des appareils professionnels. Et donc, même là, on continue cette trajectoire, ne s'arrête pas, on continue à aller dans une direction qui s'approche de cette suprématie et c'est le début de cette conversation, je crois. C'est la première année avec ce téléphone, ce modèle spécifiquement, où on entend vraiment ce genre de supposition, ce genre de déclaration. Donc moi, ça me marque pour cette raison. Est-ce que vous connaissez le compte Twitter, comment il s'appelle déjà Meme2HD. C'est un compte Twitter qui est tenu par un Français et que j'ai découvert sur Numérama. Ils ont des articles régulièrement sur ce genre de choses qui sont formidables. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit ?
Mais tu vas nous le dire.
Eh bien, c'est un compte Twitter qui prend les mèmes qui, aujourd'hui, Internet a des mèmes depuis des années et des années. On est dans un historique où ça fait, 15 ans que les mèmes existent. Eh bien, c'est un étudiant, je crois, qui fait ça, qui a ouvert ce compte Twitter. C'est sa Dimension YouTube, qui est en école d'ingénieur et qui fait de la vulgarisation scientifique sur YouTube. il a décidé de prendre les vieux mèmes en qualité toute pourrie et de les refaire à la main, un à un, en version HD. Et c'est hyper intéressant dans l'article qui sera d'ailleurs, je parlais de la newsletter tout à l'heure, il sera dans la newsletter si vous, ça vous intéresse. Donc, vous pouvez vous abonner sur notepatrick.com. Mais il prend à la main un à un des mèmes et il va chercher les sources originales où il refait complètement le design du mème s'il n'a pas de source ou si les sources sont trop compliquées. Et c'est un travail de je ne sais pas, un labor of love, comme on dit en anglais, un travail d'arrache-pied qu'il fait. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens qui lui disent « Mais non, tu ôtes le charme des mèmes d'antan quand tu les mets en HD. C'est, tu devrais pas faire ça, etc. etc. » Bref, c'est très, très drôle. Et je trouve ça impressionnant. Quand il y a des images de dessins animés, par exemple, comme je montre là, sur le Twitch, un mème qui vient d'un dessin animé de Pikachu, on a une image toute pourrie, et ben lui, il a simplement été trouvé le dessin animé en source HD, il a retrouvé exactement la même trame, et il l'a capturé, et il l'a mis sur Twitter. Je trouve ça, je sais pas pourquoi, c'est un travail d'archiviste, de restaurateur vraiment de l'internet que je trouve charmant. Donc, je voulais vous en parler.
Ouais, tu utilises le bon terme, c'est le mot de restauration. Après, ce qui est génial, c'est qu'évidemment, il ne remplace pas l'œuvre originale, il propose un truc en plus. Mais je fais partie de ces gens qui s'offusquent un peu, moi. Alors, je m'offusque pas plus que ça, ça dure quelques secondes. Mais je trouve qu'un des éléments, moi, qui me parle dans le message qui est véhiculé par un mème, c'est justement la qualité pourrie, quoi. C'est de voir cette bonne vieille image authentique qui a été éventuellement détournée avec un texte différent, mais pour lequel la qualité graphique est très, très loin des visuels haute définition que lui peut faire ou qu'on peut trouver sur le net. Et bon, je m'offusque. Bon, quelques secondes, hein, parce qu'il y a des vrais combats dans la vie à mener. Je n'en fais pas partie.
Alors bien, que ça va peut-être devenir un vrai métier. Tu pourras venir voir ce jeu avec tes mèmes et les faire restaurer comme un ouvrier. Tu vois, sera meilleur ouvrier de France sur la restauration de mèmes. Tu vois, c'est... Non, attends.
C'est vrai, c'est vrai.
L'avenir secret.
Le dernier sujet que je voulais évoquer, c'était, comment dire, c'est presque une répétition d'une question qui se pose toutes les quelques années. On a eu une déclaration de Nathalie Elimas, qui est la secrétaire d'État chargée à l'éducation, qui dit qu'elle voulait que les sites éducatifs ne soient pas comptés dans les forfaits pour l'accès à Internet. Estimant que ça handicapait les familles très pauvres et que donc il était nécessaire de ne pas compter dans les forfaits l'accès au site éducatif. Je le mentionne parce que c'est une question intéressante qui revient régulièrement parce que ça part d'une idée contre laquelle il est difficile de se battre, ou en tout cas dont il est difficile de dire non, je ne veux pas que les gens qui vivent dans la pauvreté et qui ont déjà assez de problèmes, et en plus la préoccupation de se dire si je vais trop sur Internet, on ne va plus avoir accès au site éducatif. Mais dans la réalité, c'est un petit peu démagogique parce que dès qu'on pose deux questions, on se rend compte que ça ne tient pas vraiment. D'abord, il faut définir les sites éducatifs. Est-ce que c'est les sites de l'éducation nationale ? Est-ce que c'est les sites que recommandent d'utiliser les professeurs, surtout pendant cette période de confinement, mais pas seulement ? Est-ce qu'on va étendre à Wikipédia, qui est une source d'information et de documentation importante ? Jusqu'où est-ce qu'on va aller ? Et puis, de quel forfait on parle ? Parce que, à ma connaissance, 90% des forfaits, enfin, les forfaits à la maison sont illimités. Alors, peut-être qu'on parle des forfaits mobiles, c'est possible, mais c'est un cas particulier qu'il faudrait préciser. Et dans les forfaits mobiles, généralement, il me paraît peut-être difficile de le consommer entièrement. Peut-être que si c'est votre seul forfait mobile, c'est vrai, si c'est votre seul forfait et c'est celui que vous utilisez à la maison, peut-être. Mais je ne sais pas, moi, dans ce genre de situation, je me dis peut-être qu'il faudrait, de la même manière qu'on a d'autres aides pour les familles très pauvres, peut-être qu'il faudrait recommencer un programme qui existait déjà par le passé, peut-être qu'il n'existe plus, peut-être que c'est le cas, puisque cette préoccupation surgit, un programme où on donnerait accès à un tarif très intéressant et réduit, à un forfait justement illimité aux familles qui sont sous certains seuils de pauvreté, et ça serait une meilleure solution. Pourquoi ça me préoccupe, c'est que c'est une attaque contre la neutralité du net, qui est un principe dans lequel on ne va pas replonger aujourd'hui parce que ça serait trop long, mais on en parle souvent dans l'émission. C'est un principe important de l'égalité de l'information sur Internet et de l'accès à l'information sur Internet. Et même si cette proposition n'est pas un mal profond dans cette attaque à la neutralité du net, c'est une porte ouverte qui, évidemment, dans laquelle pourraient s'engouffrer énormément de propositions qui, elles, seraient plus problématiques. Donc, je voulais le mentionner parce que c'est emblématique de ce genre de préoccupations et de ce genre de questions légitimes qui se posent, à mon sens.
Donc, bien, tu as bien fait... Pardon, vas-y.
Vas-y Gaël.
Non, je dis, tu as bien fait de le mettre à la fin de l'émission, parce que sinon tu m'aurais fait parler pendant 2 heures. Sur ce...
mais écoute,
tu n'en avais pas envie.
Non, mais c'est là, ton moi, métier, juste... c'est ton métier, l'éducation et le numérique. Donc, dis-nous.
Ça me hérisse le poil, mais tu ne peux pas savoir à quel point je trouve ça d'une démagogie et d'un. Je trouve que c'est prendre le problème totalement à l'envers. C'est vouloir mettre une brèche dans la neutralité du net, c'est scandaleux, ne serait-ce même que d'y penser. Et ça résoudrait absolument pas le problème, hein, puisque d'abord on parle d'un problème d'équipement, on parle d'un problème, enfin l'inclusion ne serait pas là, puisque ça voudrait juste dire en fait, il y a certains sites qui sont validés par le ministère de l'économie, j'allais dire de l'économie, tu vois, de l'éducation. ça veut dire qu'en fait, on résout pas le problème de l'inclusion. C'est-à-dire qu'il y a certains élèves qui vont avoir accès à des ressources pédagogiques plus meilleures que d'autres. Donc de toute façon, ça ne résout pas le problème. Enfin bon, je pourrais en parler pendant des heures.
D'accord. Donc t'es pas tout à fait d'accord avec la proposition, en tout cas.
Je suis absolument contre, mais vraiment profondément, intrinsèquement contre. Voilà, mais je m'arrête là parce qu'effectivement, ça me rien que d'y penser, ça me noue l'estomac.
Guillaume, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, je pense qu'on peut conclure là-dessus.
Ah non, on va conclure là-dessus. Je pense que Gaëlle a bien résumé le sujet et en plus, elle sait beaucoup mieux que moi de quoi elle parle. Donc
super. Eh ben, merci à tous les deux d'avoir participé à l'émission. Évidemment, avant de se quitter, je vous propose de nous dire où on peut vous retrouver. Encore une fois, commençons avec Gaëlle. Où es-tu sur Internet et où est-ce qu'on peut trouver de bonnes ressources pour l'éducation au numérique?
Eh bien, écoute, @scoud_fr. Et puis, effectivement, en plus, on parle de ce que c'est que la neutralité du net. J'ai fait un article là-dessus pour expliquer aux enfants ce qu'était la neutralité du net et pourquoi c'est important. Donc, voilà, sur tous les réseaux sociaux, vous nous retrouvez ou sur scoud.fr. Vous pouvez nous retrouver. Voilà.
Magnifique. Guillaume, où es-tu?
Alors, si vous n'avez pas assez des podcasts de Patrick, vous pouvez écouter Tech Café une fois par semaine sur de l'actu tech. Vous pouvez écouter aussi Paracult sur de la pop culture. Et puis ReLife une fois tous les 15 jours sur l'amélioration du quotidien. Le tout étant packagé, si vous voulez plus de simplicité, sur guillaumevendée.fr.
Magnifique Guillaume, le lien vers vos comptes Twitter sera dans les notes de l'émission, comme ça vous pourrez aller regarder leurs flits qu'ils ne manqueront pas de faire en nombre. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, Facebook, Instagram et partout ailleurs, YouTube aussi d'ailleurs, si vous voulez ma review de la PlayStation 5, vous pouvez aller sur YouTube, elle sera live quand vous écouterez cette émission. Vous avez également NotPatrick.com pour tous les liens, y compris patreon.com/rdvtech qui sera également en clair dans les notes de l'émission si vous voulez soutenir l'émission. Et sur notepatrick.com, vous trouvez aussi la newsletter dont je vous parle régulièrement et qui est, je pense, une newsletter de qualité avec le meilleur de ma veille toutes les semaines. Vous savez que je lis énormément d'articles et vous les retrouvez donc dans cette newsletter hebdomadaire. Et bien sûr, patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission financièrement et faire partie de ces gens bien heureux qui permettent à l'émission d'exister. Je vous fais de grosses bises à tous et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to. Courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.